France Musique.
André Tuboeuf, Mémoire, une émission proposée par Lionel Esparza, réalisée par Antoine Courtin. Aujourd'hui, 5e épisode, un jeune professeur.
Thank you.
Les défunts ne souffrent plus de rien, même la tristesse leur sera épargnée. Dans ce Ihr habt nun Traurigkeit du Requiem allemand de Johannes Brahms, c'était Herbert von Karajan qui en 1947 dirigeait le Wiener Philharmoniker avec ici la voix d'Elisabeth Schwarzkopf. Bonjour André Tuboeuf.
Bonjour Lionel.
On vient d'entendre quelque chose là, qui est beau, magnifique, c'est rien que le dire, mais pour une raison peut-être entre autres, c'est que on a l'impression que la voix de la Schwarzkopf allait au-dessus de tout ça. Complètement au-dessus et en même temps complètement intégrée par le chef ici.
Elle est entièrement au-dessus, elle est entièrement dedans, elle est intégrée. Effectivement, il y a là comme une espèce de miracle du disque qui s'est produit. Et en 1947, c'est-à-dire que j'ai trouvé, moi, ces 78 tours, je les ai encore, je les ai fait signer par Schwarzkopf, les passages de baryton solo qui sont chantés par Rother, je les ai fait signer par Rother. J'ai gardé une dévotion particulière aux deux chanteurs qui étaient impliqués dans cet enregistrement, et à l'œuvre elle-même, je dois dire, parce que j'étais entré en Brahms, j'étais entré dans le romantisme allemand et dans la spiritualité allemande par les Lieder. Mon Dieu, on ne peut pas entendre du Schubert et du Schumann sans se trouver, pour ainsi dire, à niveau et à pied d'œuvre avec cela. Mais il faut bien qu'on le comprenne, dans le Requiem de Brahms, il y a en plus tout un élément Bach qui vient s'ajouter à la chose et qui vient lui donner des proportions, quelque chose de magnifique et de total. Les chœurs, et j'ajoute cette fragilité dans ce mouvement que Brahms n'avait pas prévu au départ et a rajouté au moment de la mort de sa mère, et comme pour dire adieu à sa mère, ce passage qu'il a tiré de Saint Jean alors que tout le reste du Requiem procède de l'Ancien Testament, de textes que Brahms a choisi lui-même, comme il le fera tout à fait à la fin de sa vie pour les quatre chants sérieux. Cela représentait pour moi une espèce de totalité de ce que, en musique, on peut approfondir et illuminer pour ce qui concerne la spiritualité, l'intelligence profonde des choses. Et je dois dire, nous ne le connaissions pas du tout, mes camarades et moi, il n'y en avait pas de disque à l'époque, cet enregistrement est vraiment le premier qui en a été fait, et j'en ai eu aussitôt que possible le report sur micro-sillon que j'ai également gardé toujours par fétichisme, quoi qu'il ne soit guère plus jouable, mais il me semblait que converger et s'épanouissait dans ce Requiem de Brahms tout ce que j'avais chercher dans la musique, y compris ce qu'il n'y a pas dans Bach, c'est-à-dire dès les deux premiers chœurs, car les deux premiers mouvements sont pleinement choraux et consistent à d'abord à déplorer, à féliciter les morts d'être des morts, mais ensuite dans le second cette espèce de marche qui est comme une marche dans la forêt, une sorte d'exode. Et je dis la forêt et non pas le désert comme devrait être l'exode, mais ce sont en effet des paysages de forêt, et là où il n'y aurait pas de forêt, il n'y aurait pas cette sorte de spiritualité montée du sol et qui se fabrique aussi avec de la tourbe et avec du cimetière et avec les ossements et le souvenir des morts. Tout ceci qui est tellement typique de Brahms. Vous voyez, à quoi me servait ma culture générale en vérité? Eh bien, ma culture générale qui ne me servirait jamais à entrer à l'école d'Athènes ou à devenir prodigieux en grec, elle me servait au moins par tout ce que je ramassais et avais rassemblé de mes divers horizons à penser qu'il y avait là quelque chose comme un sommet et un aboutissement. Alors, ce Requiem m'est resté doublement mémorable en un sens, parce que dès que j'ai toujours eu un peu la vocation de tâcher de faire aimer par les autres des choses que j'aimais moi-même passionnément, que j'avais découvertes, que sans doute ils ne connaissaient pas encore, et dont je pensais qu'elles leur feraient du bien de toute façon. Eh bien, dans la première classe que j'aurai, très peu de temps après cela, à Nancy, qu'est-ce que je ferai? Eh bien, je le rapporterai aux internes, enfin, qui ne pouvaient pas sortir, ne pouvaient pas aller au concert facilement le soir. Je pouvais les mettre dans l'ambiance pour essayer d'entendre quelque chose qu'ils ne connaissaient pas encore, et les mettre en quelque sorte intellectuellement et auriculairement à genoux devant cette espèce de merveille que je transportais sous mon bras, l'électrophone d'un côté et les disques de l'autre côté. Et je me rappelle fort bien mon premier inspecteur général qui ne m'aimait pas beaucoup et qui n'aimait pas beaucoup la façon dont je faisais de la philosophie et dont j'enseignais. Il avait d'ailleurs très carrément écrit « Monsieur Tuboeuf se plaît visiblement à enseigner, mais ce n'est pas une raison pour qu'il enseigne ce qui lui plaît. » Bon, eh bien, le Requiem de Brahms, me semblait-il, était plus intéressant pour eux qu'un petit problème de sociologie ou psychologie qu'ils auraient oublié le lendemain et qu'ils auraient appris pour la durée de la journée ce qu'en pensait un tel qui était mort depuis 200 ans. Donc, j'ai fait cela. Et puis, c'était aussi la période quand même où le monde du concert et le monde de l'opéra s'ouvraient devant moi. L'opéra était infréquentable, mais je me sentais tellement cette affinité avec la voix humaine et ce que la voix nous enseigne. Et ce que la voix, quand elle chante, nous permet d'approfondir par rapport à ce que nous savons quand nous ne faisons que parler en prose et pour le langage utilitaire. Donc je continuais tout de même à remplir ma musette et à vider mon portefeuille symétriquement de tout ce que je pouvais trouver, non plus seulement aux puces maintenant, mais j'avais appris à chercher dans les caves, et c'est dans les caves de disquaires qui modifiaient leur magasin, je veux dire, et qui commençaient à brader leurs 78 tours parce que, voilà, on virait au micro-sillon. C'est là que j'ai trouvé ce Requiem de Brahms en 78 tours. C'était donc pour moi des années de formation où absolument tout arrivait ensemble et, comme c'est légitime, une sorte de fixation sur des interprètes. Alors vous voyez, bien entendu, ce Requiem de Brahms en disque, c'est le premier que j'ai entendu. Et comme nous le savons, la chose que nous avons entendue en premier est dans l'interprétation qui nous en a été d'abord donnée. Si nous n'avons à entendre que cela et que nous l'entendions 20 fois de suite, eh bien mon Dieu, c'est fixé pour l'éternité. On ne voudra pas que rien s'en écarte plus tard. Mais il se trouve quand même qu'à ce moment, les disques qu'on faisait, juste au lendemain de la guerre, il était difficile de le faire, tellement difficile, tellement coûteux de le faire. Et c'était pas seulement coûteux à acheter, c'était coûteux à faire. Autrement dit, les firmes ne se hasardaient pas dans n'importe quoi. Et si elles le faisaient, elles le faisaient bien. Et on n'allait pas compter sur un pirate venu de la radio, comme maintenant, enfin, on en trouve tellement, ou comme YouTube nous en dispense partout. Il fallait vraiment qu'une œuvre importante et difficile à mettre sur le marché soit faite et bien faite. Et je dois dire, Schwarzkopf, la fragilité, la lumière, la transparence des mots, je dois bien le dire aussi, la transparence du sens à l'intérieur des mots. Bon, on sait que c'est de Saint Jean, on imagine qu'on connaît ça par cœur par un évangile qu'on aura entendu à un moment donné, mais enfin, c'est d'abord les mots allemands qu'il faut que nous entendions et auxquels il faut que nous attribuions tout de suite une sorte d'évidence qu'ils doivent porter par eux-mêmes. Et dans ces premiers disques, on trouvait tout cela. C'est-à-dire que c'est resté pour moi un modèle inimitable, inapprochable, mais ça représente pour moi tellement ce temps de la fin de mes études où on s'ouvre à tout en même temps, où tout d'un coup dans la musique même, il y a des paysages neufs qui se manifestent et on verra tout à l'heure enfin que avec le 19e siècle allemand, je n'étais pas au bout de mes découvertes. Mais enfin, le sol restait quand même celui de la certitude. Ce sur quoi on s'appuie. Bach est ce qu'il y a de plus pur, de moins vocal, de moins émotionnel, de mieux structuré et architecturé. Thank you.
Jean-Sébastien Bach, le Richard Carré de l'offrande musicale par un ensemble instrumental réuni en janvier 1949 à Berlin par Hermann Scherchen, encore un des enregistrements que vous découvrez à cette époque-là, André Tuboeuf. Mais on n'a pas dit d'ailleurs à quelle époque on était, 1954, nous voici rendus donc à la fin des études que vous avez accomplies brillamment avec votre concours réussi. Vous vous trouvez jeune professeur, première affectation à Nancy. Vous êtes un jeune professeur heureux ou plein d'inquiétude pour ce qui lui arrive?
Je suis un jeune professeur, je suis plus jeune que je ne suis professeur. Je sais que je suis jeune, mais je ne sais pas si je réussirai à devenir professeur. Et il y a eu quand même cette chose miraculeuse, je veux dire que je peux dire que j'ai eu un coup de foudre pour les regards des élèves. C'était la première fois que je me trouvais évidemment en position d'être là derrière une chaire, ayant, je vous dis, j'avais 23 ans et demi, et mes élèves, qui étaient par hypothèse des élèves de classe terminale, ou même de classe préparatoire, ils en avaient 19, ils en avaient 20, ils en avaient 21, je veux dire que un surveillant qui m'a vu, moi, gamin, fumer dans le couloir alors qu'on n'avait pas le droit de fumer, a eu beaucoup de peine à croire, enfin, que j'étais professeur. Enfin, une fois qu'il l'a su, il l'a su une fois pour toutes. Mais c'est difficile. Mais cette expérience, tout d'un coup, de l'attente pure qui est levée vers vous et ces yeux qui sont en face de vous, qui sont en même temps des yeux et des oreilles, et qui veulent absorber, qui veulent qu'on leur parle et éventuellement qu'on cherche en eux et qu'on leur apprenne à chercher en eux-mêmes. Du coup, la propre servitude où je me trouvais moi-même de chercher en moi-même pour trouver quelque chose à leur dire, eh bien, je me suis fait confiance à moi-même et je dois dire que, comme ma carrière a quand même duré quelque chose comme combien, 35 ans d'enseignement après cela, il faut croire que j'avais eu raison de faire confiance à ce dont je suis porteur moi-même. Évidemment, je n'ai pas tout de suite été très magistral dans le fait de sortir de moi-même le meilleur possible. Mais enfin, ça aussi, ça se vient. Et ça vient peu à peu et ça vient avec l'aide des élèves, enfin, je veux dire, c'est eux qui nous tendent cette espèce de perche, cette espèce de passerelle et qui nous obligent. Et on prend confiance en soi-même, voilà, et ça s'est très bien passé depuis. Et depuis, je veux dire que je n'ai jamais préparé un cours et que je n'ai jamais eu devant moi en classe un livre, sauf, bien entendu, quand il s'agissait de lire quelque chose ou lire, de commenter un passage de Platon. Bien entendu, il faut avoir le livre en face de soi-même ou lire quelque chose qu'on a à leur lire. Mais sinon, c'est la parole. Et la parole dans le silence de ceux qui reçoivent et avec obligatoirement leurs yeux vers vous. Et je dois dire que je ne suis pas du tout sévère par nature, mais je ne supportais pas que les regards se dérobent. Simplement parce que j'ai eu toujours besoin, quand j'ai enseigné, de l'espèce de point acoustique qui se trouve chez ceux qui écoutent et qui font attention. Et s'il est blanc, si on sent qu'il est vide, alors on sent soi-même qu'il y a quelque chose dans la voix qui ne va pas porter, qui ne va pas trouver sa pleine résonance. Voilà, j'ai fait pratiquement mes premières expériences pédagogiques comme cela. Mais on comprend évidemment que mon premier inspecteur général ait trouvé que j'y allais un petit peu à ma manière.
Et c'était qui d'ailleurs, pardon?
C'était Monsieur Canguilhem, qui était un très remarquable épistémologue, mais enfin à qui j'ai été obligé de dire, écoutez Monsieur l'inspecteur général, si vous n'aviez pas voulu de moi, c'était il y a 2 mois au moment de l'oral de l'agrégation que vous aviez à le dire. Vous avez d'ailleurs tout à fait essayé de me le dire, mais enfin, pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas pris. Donc maintenant, nous allons rester comme nous sommes. Et puis, j'ai eu tout de suite des élèves merveilleux. Et je dois dire, on ose à peine dire une chance. Mais enfin, il s'est trouvé qu'un de mes élèves qui était archi brillant, extraordinairement brillant, au mois de décembre, c'est-à-dire au bout du premier trimestre, a fait une manipulation de chimie extrêmement malvenue et dangereuse. Et en vérité, s'est aveuglé lui-même. Bon, et il était déjà mon élève. Et je dois dire, ça a créé pour moi une espèce de sentiment d'obligation. Je veux dire, il ne vient plus en classe, mais il n'a pas cessé d'être mon élève. Il va essayer de passer son bachot, il va travailler comme il le pourra et comme il est très bien encadré familialement et qu'il est intrinsèquement formidable, ça marchera sûrement. Mais voilà, je ne me suis plus demandé ce que j'avais à faire de mes après-midi libres à Nancy. Je savais que j'avais quelqu'un qui m'attendait d'abord, j'ose pas dire pour que je lui fasse cours, mais mon Dieu, c'est déjà assez difficile de faire cours à quelqu'un qu'on regarde dans les yeux. Mais quand on se dit précisément qu'on a besoin de les regarder dans les yeux pour être sûr qu'on est bien à son affaire, on ne peut pas le faire avec un aveugle, par hypothèse. Donc ce sont d'autres égards et c'est une autre façon de procéder. Et c'est peut-être lui lire autre chose, lui faire de la lecture, lui apporter de la musique. Et tout ça a renforcé en moi ce sentiment de la solidarité entre différents ordres que nous portons en nous-mêmes, un ordre qui est purement intellectuel, si l'on veut, qui est d'intelligence, de pratique, de praxis. Apprendre à faire un métier, apprendre à bien faire ce qu'on fait, apprendre à ce que ça réussisse auprès de ceux à qui on le fait, etc. Ce qui est purement pragmatique en un sens. Et puis, ce qui est quand même indispensable derrière tout ce qui est intellectuel, le degré d'élévation. Parce que dans la mesure où on demande à ses élèves d'être un petit peu plus élevés par l'attention et par l'attente aussi qu'ils le seraient naturellement, il faut leur fournir aussi quelque chose qui est au-dessus du niveau auquel ils pensaient en première hypothèse se poser. Donc voilà, je restais là et mes horizons s'étendaient, j'écoutais d'autres musiques, on commençait à rêver à Bayreuth, à Salzbourg, aux choses qu'on pouvait entendre à la radio pendant l'été, pendant les festivals, tout ça était absolument fascinant. Et je venais de découvrir moi-même Wagner, pas par le théâtre, pas du tout, mais on savait que Bayreuth était rouvert, on s'était procuré les premiers disques de Parsifal, les premières choses live qu'on avait eues dans les premiers micro-sillons, ça valait une fortune, évidemment. Et je venais de découvrir par Bruno Walter, bien entendu, le premier acte de la Valkyrie, avec Lotte Lehmann et Melchior, et Lotte Lehmann demeurera à vie. Pour moi, la wagnerienne idéale, alors qu'elle n'était pas réellement wagnerienne, mais à côté d'elle, en jumeau, le Siegmund à côté de la Siegline, c'était Melchior, enfin, qui était le titan. On savait qu'il se mettait un corset, qu'il était obligé de se sangler dans un corset avant de chanter ses rôles titanesques et de les chanter 350 fois dans sa vie. Mais enfin, ce qu'on entendait sortir de sa bouche, enfin, c'était tout simplement les sons les plus beaux, les plus purs, les plus égaux, les plus lyriques qu'on puisse imaginer. Et d'un autre côté, il y avait légende restée vivante, Flagstad, qui était admirable et admirée parce qu'on savait qu'à 40 ans, elle avait voulu se retirer, sa pelote faite en disant « Ben voilà, j'ai chanté des Isoldes chez moi à Oslo, j'ai été engagé une fois à Bayreuth, j'ai mon bâton pour chanter une Sigrun dans la Valkyrie et une Gutrun dans le Crépuscule, j'ai mon bâton de maréchal, je me remarie et je rentre au pays m'occuper des pantoufles de mon mari. » Et à ce moment-là, il y a eu grand besoin d'une chair fraîche wagnerienne aux États-Unis et elle y est repartie pour 25 ans, enfin au moment où il pensait à se retirer. Mais avec la voix mûre, pleine, opulente, d'une qualité d'égalité, d'orgue et parfois la douceur du hautbois, parce que le timbre était très beau sans être ravissant. Et toutes ces qualités qui sont des qualités de maturation de la voix que personne ne laisse mûrir jusqu'à terme et que, bien entendu, depuis qu'on connaît son exemple, personne ne suit, on se garde bien de le suivre parce que tout le monde veut avoir tout fait à 30 ans. Flagstad avait attendu jusqu'à 40 et elle était prête. Et il y a eu ces Tristan incomparables, elle a donné des derniers concerts à Paris et j'ai réussi à la voir au concert et à l'opéra. En concert à l'opéra, pas dans un opéra plein comme Tristan, quand même suffisamment pour me dire « j'ai Flagstad à mon tableau de chasse ». Et à mes élèves à Nancy, pour insister malgré M. Quand il aime, mais un jour où il n'était pas là, j'ai apporté le le rudiment wagnérien qu'on peut leur donner, c'est-à-dire le duo d'amour de Tristan, la mort d'amour d'Isolde, des choses dans lesquelles, par le thème, on se repère, qui ne sont pas trop compliquées du point de vue vocabulaire wagnérien, dans lequel la chose mythique de Tristan sous-tend le reste, donc on se repère raisonnablement. Et je leur ai apporté comme introduction possible à un Wagner qui leur faisait peur à cause du fracas que tout le monde prête à Wagner, ce qui est le moins fracas, non seulement dans Wagner, mais peut-être dans toute la musique, c'est-à-dire le moment où les deux voix se rejoignent lyriquement dans le Nocturne de Tristan.
Thank you.
On va reprendre ce moment où Branguet ne arrive. Tristan et Isolde, ici interprété par Kirsten Flagstad, Loritz Melchior, sous la direction de Thomas Beecham, à Londres. On a intitulé cette émission André Tuboeuf, mémoire, mais au singulier, avec cette idée que la mémoire est quelque chose qui se reconstruit, qui s'invente, qui se crée finalement. On a l'impression que le son tel qu'on l'entend ici, c'est aussi quelque chose qui se crée et qui se réinvente. Finalement, c'est si loin dans le temps, faut me dire, pas tant que ça, bien sûr, mais ce qu'on entend aussi, tout ce qu'on a comme défaut sonore, finalement, font que l'imaginaire travaille énormément là-dessus.
Mais oui, mais parce que c'est un moment où tellement de choses se résument. Enfin, on peut dire que c'est le moment où l'action s'est préparée et la musique s'est accumulée pour créer le temps de suspens et de silence qui est peut-être la récompense supérieure en musique et dans tout ce qui demande de l'attention. Et la façon qu'a la mémoire de se constituer par simple apprentissage progressif, et pour utiliser un mot qui est très beau, par reconnaissance. Quand la reconnaissance est en même temps une gratitude et une connaissance, elle retient beaucoup mieux, je veux dire. Et c'est en quoi l'élément mélodique, la voix, est en quelque sorte donc le véhicule de la mémoire, parce que il y a quelque chose de continu, quelque chose qui imprègne. Et j'ajoute, je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'enseignement, à un moment donné, quelqu'un fait confiance à ce que sa mémoire n'a pourtant pas pu enregistrer. Il y a des choses que nous n'avons pas apprises, comme disaient les petits marquis de Molière, et que pourtant nous savons, nous autres gens de qualité, nous savons sans avoir appris. Mais en un sens, c'est vrai, depuis Socrate, c'est vrai. Tout le travail de Socrate consiste à faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il ne sait pas, ou plus exactement, quelque chose qu'il ne sait pas qu'il sait. Bon. Et moi, ça a été mon métier et mon appui sur la mémoire, et la mémoire, en quelque sorte, fécondée, illustrée et rendue heureuse par la musique qui l'aide à devenir mémoire. Mais vous savez, c'est le moment où tout, vraiment, on est si jeune, 24 ans, on a encore la vie devant soi, on a les épreuves futures qui ne sont plus des concours, qui sont évidemment embêtants, mais enfin, l'armée, le service militaire qui ne l'est pas moins. Mais il y a tellement de choses qui s'ouvrent autour de nous. Vous savez, Paris, à cette époque-là, avait été quand même privé d'un certain nombre de choses pendant la quinzaine d'années qui avaient précédé, soit par fait d'occupation, soit par la pauvreté, et en quelque sorte la frilosité qui, dans les années suivantes, a fait qu'on ne s'ouvrait pas facilement, qu'on ne voulait pas tellement reprendre contact avec ce qui se passait à l'étranger, etc. Et en 53, 54, 55, tout de même, le contrôle des changes est toujours quelque chose de très difficile. Les voyages sont toujours, enfin, hors de prix pour la jeunesse, de toute façon. Mais enfin, au moins, les influences circulent. Les radios circulent. Les festivals nous apportent un autre parfum. En France même, je veux dire, il y avait Aix, à ce moment-là, qui marchait extrêmement bien, et où Rosbaud, enfin, nous donnait des Mozart qui étaient véritablement des Mozart. Des Mozart travaillés, des Mozart répétés, pas des Mozart à la va-vite, comme on avait un peu l'habitude de les faire en France. Et nous avions Bayreuth, qui s'ouvrait, comme je l'ai dit, Salzbourg dont on rêvait, et une musique qu'on avait oubliée par le fait de la guerre. On doit se dire que Mahler, par exemple, on a commencé à entendre Mahler, et moi j'étais curieux parce que voilà, Mahler n'était simplement pas publié, parce que Mahler avait été verboten pendant les longues années du nazisme, donc dès le début des années 30, on ne le jouait plus, et il n'y en avait même pas de partition. Donc, quelques groupes en avaient fait pénétrer un peu en France, mais enfin, ce n'était pas du tout pratique courante. Quand on a vu dans une retransmission de Salzbourg qu'il y avait un certain Fischer Dieskau, qu'on admirait énormément comme jeune homme d'avenir, et qui, avec Furt Wengler, donnait des Lieder eines fahrenden Gesellen, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, mais on ne connaissait pas non plus Richard Strauss, on connaissait les opéras de Richard Strauss, parce que la France avait donné le Chevalier à la Rose, en y mettant le temps, Electra en y mettant encore plus de temps, parce que si on pense que Electra est de 1908 ou quelque chose comme ça, c'est arrivé à l'Opéra de Paris en 32, c'est-à-dire quand la bataille était gagnée de longue date. Mais on a vu arriver à la mort de Strauss cette espèce de floraison incroyable qui comportait les Métamorphoses, qui était une nouveauté absolue pour la France et qui ont été une des toutes premières choses que Karajan, après la guerre, a enregistrées et qui ont acquis à l'instant même un caractère de légende. Le vieil homme pour qui tout a été détruit par fête de guerre, y compris l'espérance en une survie possible, d'une façon d'entendre Mozart et d'entendre la musique classique qui pour lui avait été ce terreau et cet enracinement de naissance, et qui, il faut le dire, lui importait presque encore plus que le destin de sa propre œuvre. L'idée de transmettre et de passer, de faire passer l'esprit qui avait été celui de Beethoven, mais essentiellement celui de Mozart, jusqu'à d'autres générations qui n'auraient pas connu cela, est une chose essentielle pour Strauss. Et alors, Métamorphose, on a su tout de suite que ça existait. Les Fearless Leader, on n'avait aucune idée, parce que on savait qu'il en avait fait. On ne savait d'ailleurs pas si c'était 4 ou 5 ou quelques-uns de plus. Eh bien, c'est simplement en 51, je crois, donc largement après la mort de Strauss, que ça a été enregistré pour la première fois et d'une façon presque clandestine dans une radio wurtembergeoise. Flagstad les avait chantés et Furtwängler les avait dirigés à la création parce qu'on pensait que c'était la plus grande chanteuse et que c'était le plus grand chef et donc qu'il fallait les mettre ensemble. Et ça n'est qu'à partir de 52-53 qu'ils ont commencé à se répandre parce que quelques-unes s'y sont mises. Schwarzkopf, De la Casa, Jurinatsch, enfin quelques-unes. Et en concert à Paris, ça n'a pas commencé avant 55. C'est au moment où Schwarzkopf a commencé à venir très régulièrement. Alors, au concert Colonne, enfin, des concerts de l'après-midi du dimanche, qu'elle donnait la scène finale de Capriccio, dont on n'avait pas idée, les Fearless Leader. Tout un monde à la fois mélodique, chantant, et somptueux orchestralement, qui, tout d'un coup, s'ouvrait à nous et nous faisait nous dire « Ce sont des vieux et ils sont morts ». Et pourtant, c'est tellement neuf en termes d'écoute que, mon Dieu, nous avons encore peut-être quelques belles années devant nous. Thank you.
Beim Schlafen gehen, extrait des quatre derniers leaders de Richard Strauss, c'était Senayurinach qu'on entendait aux côtés de Fritz Busch ici en 1951. André Tuboff, vous nous ramenez à une époque qui n'est pas si vieille que ça, le début des années 50, plein de choses finalement qui nous semblent tellement naturelles aujourd'hui, sont des conquêtes à venir, hein. Strauss il y a un instant, et puis Franz Schubert aussi.
Mais il n'y a pas, voilà, Schubert, je veux dire, Schubert était acquis depuis toujours. Tout le monde avait pianoté les impromptus, on ne sait pas très bien dans quel état ils en sortaient, mais enfin les impromptus, les moments musicaux, les souvenirs des les soirées des belles viennoises, mais et l'inachevé, enfin qu'on jouait partout, mais pas tellement la grande symphonie et très peu de musique de chambre, mais des sonates absolument pas. Or l'intérêt pour Schubert était attisé constamment par le fait qu'on savait que Kempf parfois en jouait. Or, Kempf venait de temps en temps à Paris. Donc, peut-être Kempf à un programme en inscrirait une. On savait que Schnabel en avait enregistré trois, mais enfin, c'était encore la préhistoire et Schnabel était mort. Il y avait aussi Serkin qui en faisait quelque part en Amérique, mais c'est comme si nous n'avions aucune chance d'en voir là. Je me rappelle très bien que c'est au Puce que j'avais trouvé un 33 tours de la dernière, la 960, la si bémol, qui était joué par Jörg de Moos, qui lui-même était quelqu'un, enfin, qui émergeait à peine, qui devait avoir 20 ans, et qu'on connaissait uniquement par d'autres Schubert et les quatre mains qu'il faisait avec Badura Skoda. Paradoxalement, les quatre mains, on les connaissait. Parce qu'il y avait des jeunes gens entreprenants dans son coin d'Autriche. Brendel aussi devait s'y mettre à sa façon. Mais pour ce qui est devenu pour nous ultérieurement le corps même, le corpus de Schubert, les choses de la toute dernière époque, le quintet pour deux violoncelles. Bon, il y avait Casals avec son festival à Prades. Et évidemment, chez Casals, on faisait des choses qu'on ne faisait pas ailleurs parce qu'ils réunissaient des copains et c'était les meilleurs possibles. Donc, on pouvait imaginer un quintet venant de Prades. Mais même les trios, depuis que les Cortot, Thibaut, Casals n'y étaient plus, on ne jouait plus les trios. Donc, on était à l'affût de tout cela et on attendait que Schubert arrive avec enfin, quelqu'un qui avait tellement de charme, tellement de talent pour le piano. On attendait de lui quelque chose de grand et quelque chose de définitif. Mais ça ne viendra encore que de longues, longues années plus tard. Si j'ai bonne mémoire, c'est seulement vers 77-78 quand Philips demandera à Brendel, au moment vraiment du boom du disque, une sorte d'intégrale du piano de Schubert depuis 1824. C'est pas vieux, ça ne fait jamais que les quatre dernières années de sa vie. Mais c'est le moment où pratiquement toutes les choses vraiment importantes et essentielles se sont regroupées. Donc, Schubert était pour nous dans une situation extraordinairement ambiguë dans la mesure où c'était un classique, c'était un fondateur, c'était quelqu'un dont on connaissait par cœur un certain nombre de leaders, parce que ça avait été tout de suite mis sur 78 tours et c'est les premières choses que nous avions trouvées au Puce. Je veux dire que Schlusnus, Elisabeth Schumann, Lotte Lehmann, Huch, dans Schubert, on connaissait ça. Mais on sentait derrière un autrement grand Schubert qui ou bien aurait les grandes proportions d'un cycle comme Winterreise qu'on nous donnerait enfin à entendre un jour et la merveille de la barcarolle telle que la chante Elisabeth Schumann « Auf dem Wasser zu singen », on a l'impression que ce n'est pas seulement son Schubert mais une autre façon plus libre et plus à la fois plus joyeuse et mélancolique de faire de la musique qu'on apprend avec le livre de Schubert.
Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen gleitet wie Schwäne der wankende Korn auf der Freude sanft jüngernden Wellen gleiten die Sinne dahin wieder kann. Ach, auf der Freude sanft jüngernden Wellen gleiten die Sinne dahin wieder kann. Denn von dem Himmel herab
Gesicht errötlich erscheint. Unter den Zweigen des östlichen Haine seufzender Keim aus dem Rötlichen Schein. Unter den Zweigen des östlichen Haine seufzender Keim aus dem Rötlichen Schein. Freude des Himmels und Ruhe des Haines atmet die Seele im errötenden Schein. Schwindet mit tauigen Flügeln mir auf den wiegenden Wellen die Zeit. Morgen entschwindet mit schimmernden Flügeln wieder wie gestern und heute die Zeit. Morgen entschwindet mit schimmernden Flügeln wieder wie gestern und heute die Zeit. Bis ich auf
Auf dem Wasser zu singen, le célèbre Lied de Franz Schubert, était joué ici par Elisabeth Coleman au piano. Et on l'écoutait surtout pour la voix d'Elisabeth Schumann. Très bonne soirée à tous à l'écoute de France Musique. Je vous retrouve la semaine prochaine avec André Tuboeuf pour la suite de ses mémoires. Le sixième épisode sera intitulé « Une vie à Strasbourg ».
À réécouter sur francemusique.fr.